Au Café Laurent, désormais un rendez-vous philosophique le deuxième mardi de chaque mois. Alors rendez-vous philosophique dans un lieu qui fut autrefois lieu de pensée, de réflexion, hein, puisque nous sommes dans l'ancien tabou fréquenté entre autres par Boris Vian, Jean-Paul Sartre, alors en espérant qu'il y ait encore des résonances, des échos. Et bien sûr, dans un tel lieu, comment ne pas se demander, ne pas se poser la question, toujours nécessaire de se poser cette question, qu'est-ce qu'une vie libre? Alors, dans un premier temps, je proposerai quelques pistes de réflexion, un peu un examen de cette question, et puis ensuite, ensemble, nous essaierons d'y répondre, ou tout au moins de proposer des réponses, d'amener les concepts, de construire toute la réflexion autour d'une question qui, dès à présent, nous en sommes sûrement tous d'accord, est un véritable enjeu pour nous tous et aussi pour notre société. Alors, qu'est-ce qu'une vie libre? Une question, il est toujours bon de partir, je dirais, de la formulation elle-même, une question et une question laquelle appelle une définition. Bon, nous allons devoir un peu proposer une définition de ce que serait la vie libre. Une vie libre, qu'est-ce qu'une vie libre? Alors, bien sûr, deux termes qui me semblent importants de questionner, d'examiner. Vie, d'une part, et d'autre part, bien sûr, l'épithète libre. Qu'est-ce qu'une vie libre? Alors, la vie, il y a sûrement un implicite dans cette question, c'est bien sûr la vie humaine. Et sans préjuger de la diversité des espèces animales et de la diversité aujourd'hui, on connaît bien mieux grâce à l'éthologie, les intelligences, les comportements animaux. Néanmoins, la question d'une vie libre se pose pour l'homme. Si bien que peut-être, et sans, je dirais, se complaire dans une quelconque érudition, toujours un peu vaine, eh bien, il faut peut-être se souvenir ou se remémorer que les Grecs donnaient, au fond, avaient deux mots pour désigner ce que nous appelons, nous, d'un seul terme, la vie. D'une part, la zoé, c'est-à-dire cette vie qui nous est commune à tout le vivant, à toutes les espèces. Nous sommes avant tout des êtres vivants qui peuvent être définis, je dirais, biologiquement, chimiquement. Bien. Et ainsi, si on se posait la question en tant qu'être vivant, qu'est-ce qu'une vie libre? On voit bien, est-ce que c'est tout simplement persévérer dans son être, hein, dans ce qui serait être son espèce? Et puis, les Grecs l'entendaient aussi avec un autre terme, bios, qui nous a donné d'ailleurs biologie, alors qu'au fond, le terme pourrait être conçu sur le zoé, zoologie, mais ne l'oublions pas, qui a donné également la biographie. Après tout, ce qui va faire l'objet d'une écriture, autrement dit d'une remémoration, et peut-être, qui dit écriture, d'un projet, ou en tout cas d'une affirmation de soi, d'une certaine façon de se dire, de se poser. Si bien qu'il y aurait alors peut-être deux vies, une vie qui serait celle du vivant, et puis une vie qui serait plus spécifiquement humaine, et qui serait alors une vie qui ne serait pas donnée d'entrée, qui ne relèverait pas d'une nécessité, mais laquelle serait peut-être à construire, tout au moins à penser. Car effectivement, cette question est une question, et quelle que soit la diversité des systèmes philosophiques, des approches, des regards, c'est une question, je dirais, première dans la philosophie. Parce que supposer qu'est-ce qu'une vie libre, il y a comme implicite que la vie ne va peut-être pas de soi, c'est-à-dire de soi au sens d'un simple développement, hein, je dirais d'une croissance, de quelque chose qui n'aurait qu'à être ou qu'à pousser, hein, selon le sens de la nature, en grec physis, mais qu'il faut bien en tout cas se questionner, se réapproprier ou peut-être se l'inventer. Il y a cet implicite dans qu'est-ce qu'une vie libre. Et puis, il y a également l'idée que cette vie pourrait être une vie non libre. Alors, libre par rapport à quoi? Par rapport à une nécessité qui ferait que l'homme est autre chose qu'un vivant. Il est peut-être, comme le dit Aristote, un animal politique, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'une vie libre suppose peut-être de réfléchir sur le sujet, ce qui fait effectivement que je suis, que nous sommes tous des sujets dans un procès de subjectivation. Et alors la vie libre serait ce qui me permet de m'affirmer, de dire un je. Qu'en est-il de l'émergence d'un je? Mais ce je aussi est-il complètement isolé? Est-il dans une autonomie totalement? Ou est-il nécessairement en relation avec un autre, une altérité, si bien que ce jeu serait dans une sorte de rapport dialectique avec un nous, si bien que qu'est-ce qu'une vie libre? Et c'est peut-être aussi le plan d'une de questionner le sujet, mais aussi de questionner le politique, et de se ressouvenir de la définition d'Aristote, dans la politique justement, l'homme à l'animal politique, et de voir peut-être cette corrélation entre le sujet, entre le jeu, et le être ensemble avec d'autres jeux. Alors, qu'est-ce qu'une vie libre? C'est aussi peut-être se ressouvenir quand nous étions enfants, adolescents, ou même à n'importe quel moment. Bah, après tout, qu'est-ce qu'une vie libre? C'est agir comme il me plaît, faire ce que je souhaite, tout simplement. Bref, c'est ça la vie libre, au fond, la vie sans contrainte. Il faudrait peut-être d'ailleurs aussi, ce soir, se demander ce qu'il y a derrière cette expression que nous employons parfois tous, ou que certains de nos contemporains aiment employer, vivre sa vie. Et peut-être se demander quel est, au fond, le présupposé philosophique, un petit peu l'histoire de cette expression aujourd'hui devenue, je dirais, un petit peu d'opinion, sans pour autant être réfléchi. Voilà, je vis ma vie. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'une vie libre? C'est une vie sans contrainte. Et on voit bien ce que c'est, ce qu'est la contrainte. Tout ce qui s'impose à ma volonté, à mon désir, plus ou moins le contient, le brime, voire le censure ou l'opprime. Et dans ce sens, bah, la réponse est tout de suite faite. Une vie, quelque part, sans contrainte. Bien. Mais c'est peut-être un petit peu plus compliqué que cela. Et ce agir, faire comme on l'entend, je parlais, j'évoquais d'Aristote, mais je pourrais aussi aller voir du côté de Platon et... Là aussi, sans faire trop d'histoire de la philosophie, du côté du livre neuf de la République, où justement Socrate discutant de quelle serait la société idéale, la société juste, et non pas la société idéale d'ailleurs, la société juste, eh bien commence à se poser la question justement de qu'est-ce qui fait qu'un homme soit juste et qu'est-ce qui fait qu'un homme soit libre. Donc il se pose cette question, on voit bien l'articulation avec le politique. Il part de cette idée au fond, que soutiennent d'ailleurs les sophistes, et dans un autre dialogue de Platon, le Gorgias, hein, qu'on Socrate essaye de convaincre, cet homme brillant d'ailleurs, ce grand rhéteur, cet homme peut-être l'un des contradicteurs les plus, je dirais, les plus troublants, les plus séduisants de Socrate, Calliclès. Redoutable Calliclès dans le Gorgias. Bien Calliclès, à un moment, c'est d'ailleurs un dialogue qui tourne tour, il dit à Socrate, eh bien, écoute, va-t'en. J'en ai assez de t'écouter, moi je sais ce que c'est. La vie libre, c'est de m'affirmer, d'être moi sans contrainte, éventuellement que cela passe pour dominer les autres, pour m'imposer sur les autres. En fait, c'est moi avant tout. Voilà une définition, je dirais, quelque part égoïste, hein, de ce qui serait la vie. Voilà, qu'est-ce que c'est que d'être libre? Au fond, c'est tout simplement d'être soi, de s'épanouir, de s'imposer, et bien que chacun parvienne à s'imposer, et on verra bien ceux qui seront à la fin les plus forts et qui s'imposeront aux autres. Voilà, quelque part, résumé la philosophie de Calliclès et Socrate, je n'ai plus rien à te dire, passons à autre chose, et quelque part le dialogue se termine sur cette aphorie, sur cette suspension quelque peu violente de la part de Calliclès. Mais Socrate, ou Platon, qui fait parler Socrate, nous dit, c'est un peu plus compliqué cette histoire-là. D'une part, ça voudrait dire que qu'est-ce qu'une vie libre? Il y aurait derrière, au fond, un projet de domination de violence. Je serais libre dans la mesure où ma liberté se poserait au détriment d'autrui. Ça pose quand même beaucoup de questions, et on voit bien, même de questions essentielles sur le plan éthique, personnel et puis politique. Et puis il y a derrière aussi, peut-être, et ça c'est une question que je vous pose, qu'est-ce qu'être libre? Calliclès est-il si libre que ça? Certes, il n'est pas sans talent, loin de là, il veut s'affirmer, il veut s'imposer, il veut dominer. Mais qu'est-ce qu'il veut dominer en lui, somme toute? Est-ce qu'il ne serait pas lui-même dominé? Si bien que la question de qu'est-ce que la vie libre se pose à la philosophie par rapport à quelles seraient nos déterminations. Voilà peut-être sur quoi il va falloir réfléchir. Et cette vieille question qu'on ne pose plus toujours, la question des passions, somme toute. Au fond, quand on dit « je fais ce qui me plaît, voilà, je suis libre », mais est-ce que je suis libre dans un acte véritablement réfléchi? Au fond, je ne fais que suivre mes inclinations, mes tendances, c'est-à-dire que je serai dans l'illusion de ce qui serait ma liberté ou ma vie libre. Voilà la question que pose Socrate, que pose Platon via Socrate, et de dire finalement toujours au même livre neuf de la République, l'homme véritablement libre est celui qui exerce sur lui la royauté, non pas somme toute le tyran qui ne fait que répondre, au fond qui ne fait que suivre ses inclinations plus ou moins violentes et dominatrices à l'égard d'autrui, mais celui qui déjà sait s'imposer, se dominer lui-même et véritablement selon la raison et là être libre. Si bien que ça pose peut-être autre seconde piste de réflexion que je vous propose, se demander qu'est-ce qu'une vie libre, n'est-ce pas, alors là, aller du côté de l'épithète et se dire, n'est-ce pas une vie qui se libère? Pour être libre, ne faut-il pas déjà commencer par se libérer? Alors, se libérer des passions, selon une approche classique de la philosophie, que l'on pourrait retrouver avec ce très beau terme d'autoxisiou, d'autarcie, par exemple chez les stoïciens, dans le modèle d'Épictète, une autre variante de la domination des passions. L'homme libre est celui, quelque part, qui se suffit à lui-même et qui exerce une totale maîtrise de lui, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs une inhibition, une autocensure, mais je dirais qu'il passe peut-être par une connaissance de soi-même. Et puis, là, il faut effectivement poser la question, qu'est-ce que libre ? Est-ce qu'une vie libre, c'est une vie effectivement où je peux choisir entre deux choses ? Finalement, cette conception un peu latine de la liberté, hein, être en situation de faire un choix et quelque part presque dans une liberté d'indifférence. Ce qu'on pourrait dire une vie qui serait dans un libre arbitre. Et puis peut-être se souvenir, puisque nous sommes allés un petit peu du côté des Grecs, eh bien se souvenir que pour liberté, les Grecs parlaient d'éleutheria. Alors ce n'est pas pour dire éleutheria, qu'importe. Mais ce qui est intéressant dans la racine, il y a l'idée de croissance, il y a l'idée d'une poussée. En fait, la liberté comme germination, comme quelque chose qui pousse. Alors bien entendu, les Grecs l'entendaient un peu comme une forme, une essence qui parvient, je dirais, à son achèvement, à sa perfection. Au fond, pour eux, qu'est-ce qu'une vie libre serait la vie de l'homme accompli selon son essence. C'est en fait la conception, pour aller vite, platonicienne. Mais on peut aussi entendre cette vie qui pousse, cette germination, comme un devenir, et pas forcément comme supposé l'implicite d'une essence. À ce moment-là, alors, la vie libre serait une vie qui serait en devenir, que je n'aurais pas, d'une certaine façon, hérité, imposé selon des représentations, mais qu'il faudrait que je me réapproprie ou que je m'invente. Ce qui pose alors peut-être la question que la vie libre serait une vie qui se choisit et serait une vie alors qui se penserait comme un projet. Ici, comment, et ce n'est pas parce que nous sommes au tabou, bien sûr, mais parce qu'il me semble ça s'impose dans la question, comment ne pas évoquer la pensée et la figure de Jean-Paul Sartre, sans bien entendu avoir, et je serais bien prétentieux, résumé en quelques mots une philosophie aussi si riche, et laquelle d'ailleurs n'a pas été figée dans le temps et a elle-même connu, je dirais, des modifications, des évolutions, des approfondissements, des retours, bref, comme toute pensée vivante qui n'est pas une fois pour toutes énoncée, formulée et fermée et repliée sur elle-même. Donc je disais, si on repart, et c'est intéressant, parfois une étymologie, ça donne à penser, si au fond on se dit, eh bien c'est éleutheria, on repart de cette idée de poussée, de germination, de devenir, eh bien on peut l'entendre soit par rapport à une essence comme une belle plante qui s'épanouit, et finalement cet homme royal dont nous parle Platon, eh bien c'est cet homme qui parvient à être conformément à l'essence de l'homme, dans une vie libre qui elle-même s'épanouirait dans la cité. Et c'est quelque part la conception grecque, et on pourrait dire une conception classique. Et puis, la vie libre, ça peut être aussi une vie, comme on l'a vu, qui connaît quelque part ses passions et ses déterminations. Hein. Pour Spinoza, être libre, ce n'est pas faire ce qui me plaît ou ce qui me chante, mais au contraire, par la raison, savoir exactement ce qui me fait agir, et par là même, avoir une véritable maîtrise, laquelle n'est pas illusoire sur moi-même. Et dans l'approche sartrienne, je sais pas ce que je retiens Sartre, qui pour moi est essentiel dans cette question, en tout cas comme je l'entends, qu'est-ce que la vie libre? C'est déjà posé. Est-ce qu'il y a une essence? Est-ce qu'il y a une essence? Et sans parler de tout ce qui nous est quelque part à la naissance imposée, parce que c'est ça qui est extraordinaire au fond. Nous naissons, je dirais, comme tout être vivant, je dirais comme tout mammifère, il n'y a rien de choquant à le dire. Mais en même temps, nous naissons forcément dans un monde. nous naissons dans quelque chose qui est le même construit. Et certes, nous sommes à un moment, nous recevons une éducation, nous sommes dans un moment culturel, dans une société, et par le fait, nous sommes un être historique. Donc, poser qu'est-ce qu'une vie libre, c'est aussi la poser par rapport à l'histoire, par rapport à ce qui me détermine. Et Sartre de se dire, au fond, si l'être est un être historique et est un être contingent, ne faut-il pas être critique ou contester cette notion d'essence ? À partir de ce moment-là, ce qu'est la bios, ce que les Grecs appelaient la bios, cette vie spécifiquement humaine, alors serait peut-être une vie qui n'est peut-être que de choix et que de projet. Oh certes, la notion de projet est très à la mode dans notre société, tout est peut-être que projet. Dans différents secteurs d'économie, même dans la pédagogie, dans l'éducation, tout est projet. Ne parle-t-on pas pour un collège, un lycée, d'un projet d'établissement, etc. Il n'est pas ici pour moi lieu de critiquer ou d'examiner cette idée. Mais peut-être là aussi, c'est un peu de vivre sa vie. Ça vient au fond, récupération ou pas, nous en discuterons, mais ça vient au fond d'une chose plus essentielle, peut-être tout simplement de ça, qui sait, mais qui entendait par le projet, non pas n'importe quel projet, mais bien de saisir. Ce qui fait au fond ma liberté, c'est que je suis un être essentiellement libre par le fait même que je suis un être humain. Et à partir de ce constat-là, qu'est-ce qu'une vie libre ? Est une question qui, de toute façon, s'impose à moi. Et si je ne veux pas me la poser, alors je suis peut-être dans un déni de ce qui fait que je suis homme, ce que ça rappelle la mauvaise foi. Alors, qu'est-ce qu'une vie libre ? Serait une vie choisie, c'est-à-dire une vie consciente que, quels que soient les choix que je vais être amené, choix personnel, choix politique, mais je dirais choix également sentimentaux, bref, tout ce qui fait qu'est le tissu de nos vies, je dois en être conscient que j'en suis responsable parce que, je le veuille ou non, j'ai choisi. Et Sartre, d'ailleurs, dans ce texte, très beau texte, là j'ai le plaisir de le lire dans une édition, je dirais, ancienne, au moment de sa parution, l'existentialisme est un humanisme, Sartre reconnaît que sa philosophie est dure. Il dit « Oui, ma philosophie est dure ». Est dur. Mais précise-t-il, ce n'est pas un pessimisme, c'est un dur optimisme. Pourquoi est-ce un dur optimisme ? Parce que je suis confronté, que je le veuille ou non, à ma liberté, je ne peux pas m'y dérober. Je ne peux pas m'y dérober, oh, je suis toujours libre. Ah, là, on retrouve libre, au sens illusoire, de me mentir à moi-même, c'est d'ailleurs très facile. Mais, certains même en font un véritable art, et s'y exercent avec grand talent. Mais, si je veux effectivement être un homme véritablement libre, et là on retrouve peut-être ce qui est tout commun à tous les philosophes, qu'ils soient philosophes de l'essence ou philosophes de la contingence, c'est véritablement de penser, de réfléchir, de construire sa maîtrise de sa vie, mais pour Sartre, je dirais, c'est la pleine conscience du choix et de sa projection. Donc, parti au fond de quelques réflexions sur l'étymologie, il me semble que se propose pour nous ce soir, peut-être par rapport à cette question, une réflexion sur l'essence et l'incontingence par rapport à la liberté, sa dimension politique, autre piste. Et puis en fond, j'en terminerai là, parce que j'ai déjà bien trop causé. C'est ce bios, quelque part, peut-être que toute vie libre est une vie, et c'est aussi une question que je vous pose, que je nous pose, que je me pose à moi-même, une vie qui s'énonce, une vie qui peut se dire, qui peut-être peut s'écrire. Ce n'est peut-être pas un hasard si la littérature contemporaine, au sens très large du terme, est une littérature non seulement autobiographique, il faudrait d'ailleurs réfléchir à l'émergence de l'autobiographie, par exemple par rapport aux Lumières, il y aurait là beaucoup de choses à dire, mais aussi d'une notion, d'un concept, alors qui est très fréquent aujourd'hui en critique littéraire, dont parfois on ne sait pas toujours saisir le contour, qu'on peut parfois discuter dans certaines productions, mais néanmoins me semble-t-il très intéressante pour le sujet qui nous retient ce soir, c'est ce que l'on appelle l'autofiction. Alors non pas l'autofiction dans le sens, comme disent parfois dans certaines cours de récréation, c'est un mytho. Non, pas dans le sens de raconter n'importe quoi. Pourquoi faudrait-il se demander si de raconter au fond, entre guillemets, n'importe quoi sur sa vie, n'est-ce pas encore un certain exercice d'un choix et d'une liberté, que serait-ce n'importe quoi. Mais l'autofiction, c'est l'idée que finalement, je suis amené quelque part à m'écrire. Alors m'écrire, ça ne veut pas dire que tout le monde devienne écrivain quelque part, mais que tout le monde peut-être a quelque chose en lui-même d'irréductible, quelque chose en lui-même qui fait que c'est en propre à soi, Qu'importe ce que je suis, je dirais, socialement, intellectuellement, de mon âge, qu'importe tout ça. Mais il y a quelque chose qui est irréductible, qui est ce moi. Alors non, moi, pas dans le sens d'une complaisance dans l'ego, mais disons d'un soi, d'un noyau qui fait mon être. Et à partir de ce moment-là, alors, tout homme est appelé à se demander qu'est-ce qu'une vie libre par rapport à ce soi. Et j'en conclurai par un détour d'un philosophe américain, Emerson, qui, en tout cas, dans l'écriture, dans un de ses plus bels essais, la confiance en soi, l'entendait pas seulement dans un sens psychologique, il faut être un gagnant, ayez confiance en vous-même, allez-y, foncez, mais confiance en soi, prenez conscience que même si vous n'avez pas le destin d'un Jules César ou d'un Shakespeare, à supposer que ce fussent des dessins tout tracés, eh bien, vous là, très présentement, vous avez quelque chose à construire, vous avez forcément quelque chose à dire, et vous êtes quelque part obligé de le dire et de vous énoncer. Cela ne passe pas nécessairement par une écriture, mais au sens littéraire d'écrivain, mais cela passe par un jeu qui s'élabore et qui se dit. Bref, quel beau sujet pour commencer, je dirais, dans ce tabou, que de se dire que nous avons tous un jeu et que nous avons tous une énonciation, une parole, je dirais, à énoncer et à partager. Voilà, alors partageons-la très vite ensemble. Alors, des premières remarques, peut-être, donc comme dans un café philosophique, si certains d'entre vous n'avaient pas encore participé à un café philosophique, ce n'est nullement, bien entendu, d'écouter un quelconque conférencier, ce serait tout à fait en plus déplacé de ma part, mais c'est à partir, je dirais, de quelques notes, un prélude, d'échanger, de construire ensemble selon les réflexions. Alors, oui, est-ce que vous pouvez rappeler ton prénom? Voilà, parce que ça se fait dans d'autres cafés philo. Voilà, Sylvie.
Merci. Donc, je retiens trois notions essentielles donc, dans ce qui a été dit. La notion d'équilibre, la notion de processus et donc de libération,